VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir, au sommaire de cette édition du 8 juin 2017. Témoignage de l'ex-directeur du FBI devant une commission du renseignement au Sénat, James Comey, estime avoir été limogé par Donald Trump à cause de l'enquête sur la Russie. Ce sera dans un dossier spécial en début de journal. Les Britanniques votent pour des élections législatives cruciales. Lancement ce jeudi à Yaoundé d'un réseau pour combattre la criminalité maritime dans le golfe de Guinée. Lors d'une audition au Sénat américain sur l'ingérence présumée de la Russie dans la présidentielle 2016, l'ancien directeur du FBI, James Comey, a livré un témoignage exceptionnel sur le président Donald Trump qu'il a limogé le mois dernier, Timothée Donangmaï.
James Comey a dit que le président Trump lui a demandé sa loyauté, une requête à laquelle Comey dit n'avoir pas donné de suite. Il s'est dit troublé par les déclarations contradictoires du président Trump et de son administration sur les raisons de son limogeage. Et bien que la loi ne requiert pas de raison particulière pour limoger un directeur du FBI, l'administration a choisi de me diffamer, et plus important encore, de diffamer le FBI, disant que le désordre régnait dans cette organisation, qu'elle était mal dirigée, que les agents avaient perdu foi en son directeur. C'était des mensonges purs et simples. Pour l'ancien directeur du FBI, il n'y a aucun doute que les Russes étaient derrière les actes de piratage des ordinateurs de différentes institutions américaines, notamment ceux de la direction du Parti démocrate et des registres électoraux de divers États, mais qu'à sa connaissance, aucun vote n'a été changé par les pirates russes. James Comey a reconnu n'avoir pas reçu un ordre direct d'arrêter l'enquête sur les interférences russes, mais qu'il avait compris que le président Trump souhaitait qu'il laisse tomber l'enquête au sujet de l'ancien conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn. Cela constitue-t-il une obstruction à la justice? Je ne pense pas qu'il me revienne de dire si les conversations que j'ai eues avec le président étaient une tentative d'obstruction, mais c'était pour moi quelque chose de troublant et de préoccupant. Comey a méticuleusement pris note durant ses rencontres et conversations téléphoniques avec le président Trump, ce qu'il n'avait pas fait avec ses prédécesseurs Bush et Obama. Mon impression était que quelque chose de très important allait arriver et que j'aurais besoin de me rappeler de chaque mot qui aura été prononcé. Comey a dit aussi avoir pris des notes au cas où le président Trump mentirait sur la nature de leur conversation. Il a dit avoir fourni sa version des faits aux Américains afin qu'ils puissent eux-mêmes tirer les conclusions.
Du côté des Républicains, c'est le soulagement et Kia Badou a recueilli la réaction d'Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État aux affaires africaines.
C'est un très bon point pour le président Trump parce qu'il y a déjà des journalistes et d'autres gens qui accusent le président de vouloir empêcher l'enquête sur l'ingérence russe dans notre élection. Si Trump a refusé d'empêcher l'enquête, c'est un bon point pour lui. Si on trouve que un candidat Trump lui-même a donné des instructions et encouragé ça, il peut être empêché.
Pour vous, comme il faut poursuivre l'enquête, quelle pourrait être l'issue de cette enquête selon vous?
Ils savent déjà qu'il y avait des experts russes dans les télécommunications qui ont fait l'ingérence, qui ont essayé de changer notre élection. Ce qu'ils cherchent maintenant, est-ce que les gens autour de Trump dans la campagne ont collaboré? Et surtout le général Flynn, qui a eu des contacts et deux, trois autres, y compris le gendre, qui ont eu des conversations avec les Russes. Il faut savoir, est-ce qu'ils ont collaboré dans l'effort de changer notre élection? Ça, c'est très important.
Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à une destitution, selon vous? Quelle serait la sanction la plus forte?
À mon avis, on peut aller aussi loin. S'il y avait des crimes, c'était avant que président Trump soit inauguré. Mais je crois qu'il y aura des accusations et des inculpations de quelques gens autour de Trump.
Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. Côté démocrate, John Lindon a recueilli la réaction de René Lake, analyste politique à Washington.
J'ai le sentiment d'avoir vécu un moment historique. Si cette affaire russe, le lien entre les Russes et la campagne de Donald Trump devait devenir une sorte de Russe-gate, un peu du type Watergate, je crois que le moment que nous vivons, la journée d'aujourd'hui, sera un tournant déterminant, si ça devait le devenir. Parce que pour l'instant, rien ne prouve que l'on a quelque chose d'aussi sérieux que le Watergate de l'époque avec Nixon. Mais je dis bien que si ça devait le devenir, je crois qu'aujourd'hui, ce serait un tournant essentiel.
Et justement, si ça devait le devenir, quelles pourraient être les conséquences?
Écoutez, les conséquences pourraient être énormes. Elles pourraient aller jusqu'à questionner, remettre en cause même la présidence de Donald Trump. Il ne serait peut-être certainement pas en mesure de terminer son mandat. Mais je dois dire que pour l'instant, on est encore loin de là.
Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un acharnement contre Donald Trump?
S'il y a acharnement, j'ai presque envie de dire que James Comey a le sentiment que ça va dans le sens inverse.
Le démocrate René Lake, politologue à Washington. Les bars de la capitale ont ouvert tôt ce matin pour permettre à leurs clients de suivre en direct l'audition de James Comey. Morgan Guiriec a tendu son micro à un Washingtonien.
Honestly, no. It caused a whole lot of personal pain for me.
It was a once-in-a-lifetime opportunity.
C'est une opportunité qui arrive une fois dans la vie. Je ne pouvais pas rater ça.
Installé à la terrasse d'un bar en ce jeudi matin, Owen, 21 ans, rigole. Sur la même table, Coulter, 21 ans lui aussi, décrit une atmosphère particulière.
C'est assez plaisant, mais c'est aussi solennel dans une certaine mesure. Tout le monde est un peu tendu, mais pas trop. C'est calme, mais il y a l'attente d'une grande annonce, d'une révélation. J'ai l'impression que ça va exploser.
Malgré des petits déjeuners servis et le cadre relax, l'affaire est très sérieuse pour Owen.
De mon point de vue, il semble que Trump ne sait pas vraiment ce qu'il fait et il a commis des erreurs vraiment bêtes. Je pense qu'il y a probablement une influence venant de la Russie, mais je n'en sais pas suffisamment pour avoir une opinion bien tranchée. Quelque chose de louche est en train de se passer. C'est incroyablement sérieux. Le moins qu'on puisse faire, c'est d'enquêter.
Pour sa part, Coulter dit n'avoir aucune attente.
Je ne m'attends pas forcément à un changement drastique, mais plutôt à une meilleure compréhension des interactions entre Trump et le directeur du FBI. Oui, c'est important pour la démocratie.
Pour cet étudiant, le public ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé. Trois enquêtes sont en cours, il faudra donc attendre qu'elles aboutissent pour se faire une idée.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les Britanniques se rendent aux urnes pour des législatives cruciales. Ces élections anticipées se tiennent quelques jours après une attaque terroriste meurtrière à Londres. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Les bureaux de vote ouverts à 6h GMT vont refermer à 21h temps universel. Comme les récents attentats de Manchester et de Londres ont fait 35 morts en 3 mois, le Brexit et la sécurité préoccupent de nombreux électeurs. Theresa May, première ministre sortante conservatrice, veut renforcer sa majorité au Parlement pour négocier le Brexit. Son rival travailliste, Jeremy Corbyn, lui veut adopter un ton plus conciliant avec Bruxelles et garder un accès au marché unique européen. Il faudra attendre la fermeture des bureaux de vote pour avoir les premiers sondages de sortie des urnes. Le résultat final est attendu ce vendredi à l'aube.
19 pays africains ont lancé ce jeudi à Yaoundé, sous l'égide de l'Union européenne, un réseau pour combattre la criminalité maritime dans le golfe de Guinée. Cet espace est le théâtre de piraterie, enlèvements, vol à main armée, trafic de drogue, d'êtres humains, de bois, d'armes et de déchets, pêche illégale et vol de cargaison de pétrole, énumère un communiqué du réseau interrégional pour le golfe de Guinée. Et l'Afrique du Sud a interrompu ses importations de poulets en provenance du Zimbabwe à la suite d'une épidémie de grippe aviaire qui a frappé un élevage zimbabwéen. La surveillance sanitaire a été renforcée entre les deux pays à tous les postes frontaliers, a précisé le département de l'agriculture. En Syrie, les forces américaines ont abattu un drone qui avait tiré sur des forces de la coalition près d'Al-Tanaf, a indiqué ce jeudi un porte-parole de l'alliance menée par les États-Unis. Le drone abattu n'a pas causé de dégâts sur les forces de la coalition qui avaient également tiré sur deux véhicules pro-régime jugés menaçants un peu plus tôt, a affirmé le colonel Ryan Dillon dans une vidéoconférence depuis Bagdad. Et le Qatar rejette toute intervention dans sa politique étrangère, a déclaré son ministre des Affaires étrangères, tout en excluant l'option militaire. Une solution militaire n'est pas une option, a dit Mohamed Ben Abderrahman Al-Thani, affirmant qu'aucun mouvement de troupes n'avait été opéré vers la frontière avec l'Arabie Saoudite. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
La Banque mondiale a accordé de près de 262 milliards de francs CFA au Cameroun pour le développement et la modernisation de ses secteurs de l'élevage et de l'électricité. Cela va également permettre la modernisation des capacités de production et de commercialisation de ses produits avicoles, non seulement pour assurer une autosuffisance alimentaire, mais également lui permettre d'exporter ses produits dans la sous-région Afrique centrale et au Nigeria voisin. En Centrafrique, 1500 jeunes ex-combattants démobilisés de Bangui, de Bouar et de Bambari vont bénéficier d'un projet d'assistance d'urgence pour la relance agricole financé par le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ces jeunes seront dotés de kits d'intrants pour leurs activités agricoles, mais également d'un encadrement technique. Ces ex-combattants ont reçu aussi une formation en matière d'entrepreneuriat. Les multinationales chinoises ont été en 2016 les plus grands investisseurs en Afrique. Selon Financial Afrique, les investissements non financiers chinois ont bondi de 31% en 2016, atteignant 2,5 milliards de dollars répartis dans toute l'Afrique.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Sétif, sacrée championne d'Algérie pour la 8e fois.
L'entente sportive de Sétif a remporté le titre de champion d'Algérie grâce à sa victoire face au Mouloudia Olympique de Béjaïa, 3 buts à 0 hier lors de la 28e journée. L'entente sportive de Sétif, deuxième club le plus titré du pays derrière la JS Kabylie avec 14 titres, totalise 54 points contre 47 à son suivant immédiat, le MC Alger, battu par le RC Rélizane, 3 buts à 2. Sétif ne peut donc plus être rejoint à deux journées de la fin de la compétition.
Angleterre-Venezuela, ce sera la finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans.
Le Venezuela n'avait jamais atteint une finale de Coupe du Monde. C'est désormais chose faite grâce à son équipe des moins de 20 ans qui a disposé de l'Uruguay au tir au but. Un partout à la fin du temps réglementaire, 4 tirs au but à 3 lors de la séance des pénaltys. C'était ce matin en Corée du Sud. Les Vénézuéliens qui rencontreront en finale les jeunes Anglais. Menée d'entrée, l'Angleterre a su réagir en demi-finale pour éliminer l'Italie 3 buts à 1 et s'offrir cette finale de Coupe du Monde.
Et la route vers la Coupe d'Afrique des Nations 2011 commence demain, Nicolas.
La première journée débute demain avec un Libye-Seychelles et un Soudan-Madagascar. Et samedi, de gros chocs en perspective. Burkina, Angola, Nigeria, Afrique du Sud, Cameroun, Maroc et RDC, Congo à Kinshasa.
Troisième match de la finale NBA, Golden State a une victoire du titre.
Le match a été très serré hier soir à Cleveland, mais les Warriors ont fini par avoir le dessus, battant les Cavaliers champions en titre, 118 à 113 dans ce troisième match de la finale NBA. Golden State mène 3-0 et n'a plus besoin que d'un succès pour empocher son deuxième titre de champion NBA en 3 ans. On rappelle que les Warriors sont toujours invaincus depuis le début de ces playoffs. Ils ont signé hier leur 15e victoire consécutive, améliorant leur propre record NBA. C'est du jamais vu dans l'un des grands championnats professionnels nord-américains.
Merci beaucoup Nicolas pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. Au Mali, toutes les parties étaient présentes à la 18e session du comité de suivi de l'accord d'Alger à Bamako. Elles ont salué les progrès réalisés par le gouvernement. Cet accord est relatif notamment à l'opérationnalisation des autorités intérimaires et des patrouilles mixtes, au processus de la révision constitutionnelle, au calendrier des prochaines élections et au processus de rédaction de la charte pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale. Le point avec Kassim Traoré.
Pendant cette 18e session, le comité a pris note de la présentation du gouvernement du Mali sur l'opérationnalisation des autorités intérimaires, les collèges transitoires dans 5 régions nord du Mali, à l'exception de Kidal où des difficultés d'ordre technique persistent encore. Ambassadeur Ahmed Boutache, chef de file de la médiation.
Aujourd'hui, ce qui reste à faire, c'est d'assurer l'effectivité du fonctionnement des autorités intérimaires, et d'autre part, de veiller à ce que l'ensemble des mécanismes sécuritaires, les MOC, les mécanismes opérationnels de coordination, soient mis en place le plus rapidement possible.
À partir du 20 juin prochain, le parachèvement de l'accord aura 2 ans. Avant cette date, le comité de suivi veut réaliser certaines actions urgentes au niveau de Kidal.
Il est important que les services de base puissent de nouveau être assuré à Kidal. Il est également naturel que le gouvernement malien reprenne sa place dans cette région et que cette présence soit marquée par la présence des autorités administratives et des FAMA. Et il faut naturellement qu'il y ait également le MOC qui assurera, lui, la sécurité des biens et des personnes.
Les partenaires et autres groupes armés du comité de suivi ont tous salué l'adoption de la constitution révisée du Mali, ce qui facilitera selon eux l'application de l'accord. Ahmed Boutache.
Le Parlement est là, le gouvernement est là, des textes de loi peuvent être proposés, amendés et enfin adoptés en ce qui concerne n'importe quel segment de la vie de tous les jours. Ce qui est important et qu'il faut en revanche retenir, c'est que les mouvements ont été consultés, ils ont été entendus, ils ont eu à formuler par écrit leur opinion et leurs observations sur le nouveau texte proposé.
Le MOC sera opérationnel à Kidal et Tombouctou, avec des combattants qui seront dotés d'armes lourdes pour la protection des personnes et de leurs biens.
C'est le fait qu'on dise aujourd'hui, très bien, on donnera des éléments avec des armes légères pour le MOC de Kidal. Mais ensuite, il faudra que les forces de la MINUSMA et de Barkhane viennent protéger le MOC. Mais alors, à quoi sert-il ce MOC? Il faut qu'on assure sa protection. Alors que sa mission première est d'assurer lui-même la sécurité des biens et des personnes dans la région où il est implanté.
Pour le chef de file de la médiation, c'est la fin des tergiversations pour la mise en place du MOC à Kidal et Tombouctou. Surtout que la CEMA vient de libérer le camp 1 de Kidal afin que la MINUSMA puisse entamer des travaux de construction à ce niveau. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, la police a été chargée de traquer et d'interpeller des groupes de jeunes délinquants qui sèment la terreur à Abidjan. Les Ivoiriens surnomment ces jeunes de la rue les microbes. Plus de 3500 policiers sont mobilisés pour traquer ces délinquants dont plusieurs ne sont pas encore majeurs. Des précisions avec notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tonkara.
Nous sommes dans la commune d'Abobo, au nord d'Abidjan. Abobo, c'est la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire, avec plus d'1,5 million d'habitants. Ici, c'est le fief de ces jeunes délinquants appelés microbes. Machettes et autres armes blanches à la main, ces jeunes désœuvrés, dont l'âge varie entre 10 et 25 ans, attaquent par groupe tous ceux qui ont le malheur de se trouver sur leur passage. À Abobo, tout le monde en a marre des agissements de ces jeunes délinquants.
Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de sécurité. On ne cache même pas ça. N'importe qui, tu vas demander à Abobo, il va dire qu'il n'y a pas de sécurité. On a peur, mais comme on est dans la main de Dieu, sinon on a peur, hein, on a peur à Bobo.
Les enfants, là, ils nous emmerdent trop. Parce qu'il y a des fois, ils peuvent sortir en groupe comme ça, un coup. Tout le monde a des machettes.
maltraiter les gens, arracher les portables, arracher les sacs de femmes. Bon, prends l'argent et puis on te pique. C'est dommage.
Moi, ça parlait de 18 heures. Il commence à agresser des gens à gauche, à droite.
L'opération policière lancée il y a quelques jours est donc pour les populations de cette commune un grand soulagement.
Bon, les corabiers ont envoyé dans ces temps. On peut dire Dieu merci, on a un peu de soulagement. Mais on ne sait pas comment ça va finir.
Oui, c'est bien, mais ça ne suffit pas, quoi. Parce que quand ils voient les corabiers, ils savent que voilà les corabiers qui viennent, ils fuient et ils s'appellent. Mais quand ils sont en civil là, quelqu'un qui est en civil là, tu ne peux pas savoir.
Les policiers qui sont là, là, ils sont pas là pour faire leur travail. Maintenant, quand on dit de bien protéger la population, que vous commencez à raqueter les choses, les transporteurs, c'est pas normal.
L'opération de l'OPV ne se limite pas que les grandes voies, mais qui rentrent dans les profondeurs des quartiers. Et surtout les fumoirs, voilà, il faut essayer de démolir ces fumoirs-là. Parce que quand les enfants sont sur l'effet de la drogue, ils n'ont plus peur.
Épervier 2, c'est le nom de cette vaste opération policière qui mobilise 3537 agents des différentes forces de sécurité. Joseph Yao Kwame est le préfet de police d'Abidjan.
À Bobo, parce que nos populations se sentent vraiment en insécurité, l'objectif c'est de faire tomber le sentiment d'insécurité dans lequel la population d'Abobo est plongée. Donc toutes les zones criminogènes d'Abobo doivent être passées au peigne fin. L'opération Épervier se mène dans toutes les communes d'Abidjan.
Abobo, Adjamé, Atekoubé, Yopougon, toutes ces communes d'Abidjan souffrent aujourd'hui de la présence de ces gangs d'adolescents dont l'apparition remonte à la crise post-électorale de 2010-2011. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Suite de la brouille entre Riyad et Doha, plusieurs pays africains s'alignent derrière l'Arabie Saoudite. La Mauritanie a rompu ses relations avec le Qatar. Le Tchad, après le Sénégal, rappelle son ambassadeur à Doha. Le Gabon dénonce les agissements récurrents du Qatar. Et à propos des raisons avancées par la Mauritanie, Idrissa l'a joint notre confrère Kissima Diagana, rédacteur en chef du journal La Tribune à Nouakchott.
Dans le communiqué qui avait été envoyé par le ministère des Affaires étrangères de la Mauritanie, il reproche à l'État du Qatar d'être un émirat qui finance un peu les groupes terroristes et encourage la propagation d'idées extrémistes. Voilà en fait la principale raison, et surtout aussi que la Mauritanie dit avoir œuvré pour que dans la région du Moyen-Orient, que la paix et la sécurité puisse régner. Voilà.
Aussi, le Sénégal a rappelé son ambassadeur.
Oui, pas que le Sénégal. Nous avons appris également que le Gabon aussi a emboîté le pas. Au départ, nous croyions que c'était seulement les pays arabes musulmans qui étaient engagés dans cette dynamique de rupture des relations qui intervient plusieurs jours après la visite en Arabie Saoudite du président américain Donald Trump. Cette visite avait été l'occasion pour beaucoup d'autres chefs d'État africains de venir rencontrer le nouveau président des États-Unis.
Mais les États-Unis ont l'une des plus grandes bases militaires à Qatar, donc n'ont aucun intérêt à alimenter une bisbille entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, non?
Mais aussi paradoxal que cela peut paraître, il ne faut pas oublier également que Donald Trump est un homme d'affaires qui est parti régler d'abord l'histoire de vente d'armes avec l'Arabie Saoudite, et vous avez vu l'ampleur avec laquelle il a été reçu en Arabie Saoudite. L'existence de cette base dans le Qatar, ça peut participer à une logique sécuritaire, mais la rupture des relations avec le Qatar qui a été engagée par l'Égypte, il faut le reconnaître qui est aussi une puissance dans le Moyen-Orient, on peut changer de cap à tout moment. Mais il ne faut pas oublier également qu'il y a la Russie de l'autre côté avec aussi le pays de Recep Tayyip Erdogan de la Turquie. On a comme l'impression qu'il se passe une sorte de chamboulement.
De petits pays comme la Mauritanie, le Sénégal et le Gabon, on a l'impression que c'est le menton qui suit le mouvement de la tête. La tête étant l'Arabie Saoudite qui donne de l'argent.
Bon, nous sommes en Afrique. Par exemple, si vous prenez la CEDEAO dont on a parlé tout récemment par rapport à l'invitation qui avait été faite au Premier ministre de l'État d'Israël, beaucoup de chefs d'État ont renoncé à venir, y compris par exemple le roi du Maroc. Je ne sais pas si c'est un jeu d'intérêt qui pousse les États africains à agir ainsi, mais toujours est-il qu'ils ne sont pas encore autonomes au point d'avoir des choix diplomatiques qui soient le reflet d'une souveraineté. Cette rapidité avec laquelle, par exemple, des pays comme le Sénégal, la Mauritanie réagissent montre dans une certaine mesure une sorte de dépendance de ces États-là vis-à-vis de certaines forces, de certaines puissances du monde, quoi.
On écoutait Kissima Diagana, rédacteur en chef du journal La Tribune en Mauritanie. La conférence sur les océans se tient cette semaine au siège de l'ONU à New York. Cet événement coïncide avec la Journée mondiale de l'océan célébrée ce 8 juin avec pour thème cette année « Nos océans, notre avenir ». De nombreux pays africains dépendent du tourisme, de la pêche et d'autres ressources marines. Et selon l'ONU, les espaces maritimes sont en danger. Jacques Aristide s'est entretenu à New York avec Julian Barbière, chef de la section des politiques maritimes de la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO.
Les océans, c'est 71% de la surface de la planète, donc c'est un écosystème à part entière. Il fournit la plupart de l'oxygène que nous respirons. C'est aussi un mécanisme qui permet de réguler le climat, donc c'est à cause des océans que nous pouvons vivre sur cette planète. Il fournit aussi beaucoup de ressources, y compris halieutiques, de pêche aux communautés côtières, donc c'est aussi une source d'emploi, donc un intérêt économique très important. Mais en même temps, l'océan, et ça on s'en rend compte d'un point de vue scientifique, est sous très forte pression, principalement pression humaine, à cause de la surpêche, à cause de la pollution plastique, et ça a un impact évidemment sur la faune locale. Et puis c'est aussi la dégradation des écosystèmes côtiers comme les mangroves ou les systèmes de récifs coralliens, qui sont très importants puisqu'elles jouent un rôle de protection par rapport à l'érosion côtière, mais aussi par rapport aux tsunamis ou aux tempêtes. Donc à partir du moment que ces écosystèmes sont détruits, il y a déjà une perte économique, mais il y a aussi une vulnérabilité des populations face aux effets du changement climatique. On est tous liés d'une certaine façon à la santé de l'océan. Cette journée du 8 juin, qui est célébrée depuis maintenant une quinzaine d'années, va être l'occasion de mettre en avant les actions des communautés locales de par le monde.
Voilà autant de défis. Que doivent donc faire les pouvoirs publics, y compris ceux en Afrique, pour sauver l'océan et ce, au profit des populations?
Ce qui est important, c'est que les États investissent au niveau scientifique pour qu'ils aient ensuite les données. Mais ensuite, après, il faut que ces pays mettent en place des plans de gestion. Donc, au niveau de la pêche, par exemple, on sait qu'il y a une surpêche, il y a aussi des problèmes de pêche illicite. Donc, il faut mettre en place des programmes de surveillance pour s'assurer que les communautés de pêcheurs artisanaux en Afrique n'aient pas leurs ressources pillées par des flottes étrangères ou par des pêches illégales. C'est aussi important de mettre en place des programmes de réduction de la pollution. Il faut mettre en place des systèmes de collecte, par exemple de plastique, du verre. Et puis c'est aussi mettre des programmes de planification, c'est-à-dire faire en sorte que l'activité humaine et économique qui a lieu en mer puisse être compatible avec la capacité du milieu marin. Le dernier élément, c'est le changement climatique, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui a un impact très fort sur l'océan. On parle depuis un certain nombre d'années de l'acidification des océans qui est principalement due au CO2 que les humains recrachent dans l'atmosphère. Et en fait, ce CO2 a un impact sur la chimie de l'océan et crée une acidification qui a lui-même un impact sur la faune. Donc là aussi, on peut agir par réduire nos émissions de carbone et donc s'assurer que, par exemple, l'accord de Paris soit mis en œuvre. Et en fait, tout au cours de cette discussion, nous avons toujours mis en avant le fait que l'océan a un impact sur l'éducation, sur l'emploi, sur la réduction de la pauvreté, sur la provision de ressources en eau. Il y a plus de 1000 partenariats qui ont été identifiés, donc qui viennent des pays, qui viennent de la société civile, du secteur privé, et donc qui décident de travailler ensemble pour mettre en œuvre cet objectif de développement durable numéro 14, donc qui est pour le CEP.
C'était Julian Barbière, chef de la section des politiques maritimes de la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Hein. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Sims. À la console, c'était Tian Wang. À la présentation, Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous.